pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, nous sommes hyper connectés. Téléphone, GPS, télévision, ordinateur, radio, tous ces outils nous sont devenus indispensables pour nous informer, échanger avec nos proches, travailler. Et si tout à coup, plus rien ne marchait? Le blackout total. Impossible, me direz-vous, il y a des satellites, la technologie est hyper sophistiquée. Oui, mais c'est oublier que notre planète n'est qu'une tête d'épingle dans le système solaire. Et le soleil, justement, qui passe par des phases d'activité différentes, peut nous jouer des tours. Et c'est aussi oublier qu'en une cinquantaine d'années, nous avons pollué l'espace de milliards de déchets et de débris qui peuvent à tout moment percuter justement nos chers satellites, voire nous tomber sur la tête.
RFI.
For the eyes of the world, now look into space. To the moon and to the planets beyond. And we have vowed that we shall not see it governed by a hostile flag of conquest, but by a banner of freedom and peace.
L'univers serait parfaitement déterminé. Il serait à la fois mouvement et équilibre. Il serait éternel puisqu'aucun accident n'y demeurerait possible. En réalité, les accidents sont possibles. Les étoiles et les mondes naissent, vivent et meurent comme les hommes, et les lois elles-mêmes connaissent des exceptions.
L'aventure de la conquête spatiale a fait rêver le monde entier. Elle continue de nous fasciner. Mais que connaissons-nous vraiment de cet environnement qui nous entoure? On en parle avec nos trois invités. Jean Lilenstein, bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble. Vous êtes d'ailleurs en duplex de Grenoble grâce aux équipes techniques de France Bleu Isère, que l'on remercie au passage. Et vous êtes un météorologue de l'espace. Alors expliquez-nous votre travail.
Mon travail, c'est d'arriver à comprendre comment les variations du Soleil impactent l'environnement spatial de la Terre. Et quels effets ça peut avoir sur notre monde technologique, comme vous en parliez justement?
Alors, on va revenir dans le détail sur ces variations du Soleil. Et en studio avec moi, donc Olivier Grunewald, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes photographe et vous êtes chasseur d'aurores boréales. Alors ça, tout de suite, ça fait rêver. Les aurores boréales, pour simplifier, c'est la partie visible, justement, des relations entre le Soleil et la Terre. Vous allez nous expliquer tout ça, mais c'est une véritable passion pour vous.
C'est une véritable passion et je passe mon temps sur toute une série de sites internet de météorologie spatiale pour suivre l'activité du Soleil qui, en cas de forte éruption, va générer de très belles aurores boréales.
Et en studio aussi avec nous, Jackie Bonnemain, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes de l'association Robin des Bois et vous avez publié en juin 2011 un rapport sur les déchets dans l'espace, mais c'est un phénomène que vous suivez depuis les années 80 ?
C'est un phénomène qu'on suit depuis longtemps et l'ONG Robin des Bois a été la première et la seule d'ailleurs à faire pour l'instant un rapport, à avoir fait un rapport complet et complimenté par l'Agence spatiale européenne, même la NASA, parce que c'était le premier rapport environnemental finalement sur les débris, sur les déchets dans l'espace.
Alors, on va revenir sur cette notion de débris et de déchets dans l'espace, parce que tout ça, vous allez le comprendre, est lié. Mais avant, il faudrait peut-être, Jean Lilenstein, rappeler rapidement quelle est la place de la Terre dans notre système solaire.
Le système solaire, c'est avant tout le Soleil. Imaginez que vous ayez 10 kilos de système solaire, 10 000 grammes, il y en a 9 998 dans le Soleil. Et dans les 2 grammes qui restent, il y a tout le reste. Toutes les planètes du système solaire, les comètes, les astéroïdes, les poussières, etc., etc. Donc la Terre, c'est effectivement une toute petite poussière dans le système solaire qui se trouve à 150 millions de kilomètres du Soleil et qui est entre le Soleil et la Terre. On trouve d'autres planètes, on trouve Mercure, on trouve Vénus, et puis au-delà, il y a Mars, et puis au-delà, encore les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, etc.
Et alors, vous parliez des interactions entre le Soleil et la Terre. Il y en a beaucoup, on pense évidemment à la lumière, mais il y en a d'autres qu'on connaît moins et qui peuvent avoir des conséquences sur notre quotidien.
On le sait moins, et ça a été imaginé en 58 par des physiciens théoriques et découvert avec le début de l'ère spatiale dont vous parliez tout à l'heure. C'est que le Soleil envoie en permanence dans l'espace des particules, et ce sont des particules électrisées. Dans notre jargon, on les appelle des électrons, c'est la même chose que l'électricité de nos fils électriques. Et puis des protons ou des ions, c'est pas très important, ce sont des particules solides qui voyagent dans l'espace à la vitesse moyenne de 400 km par seconde et qui baignent tout le système solaire.
Et quand elles arrivent sur la Terre, évidemment, ça a des conséquences, ça se traduit notamment par les aurores boréales, Olivier Grunewald ?
Alors, en fait, ces vents de particules arrivent et vont commencer par toucher une enveloppe de la Terre, la magnétosphère. Les particules vont se connecter sur les lignes du champ magnétique terrestre et arriver dans la haute atmosphère. À ce moment-là, ces particules vont percuter des atomes de gaz, principalement de l'oxygène et de l'azote. Et la réaction va produire des photons, des particules lumineuses, qui vont être les aurores boréales. Et quand ces vents sont à des vitesses, je dirais, faibles, autour de 300 km seconde, on peut avoir des aurores boréales assez sympas, assez belles, avec pas mal de mouvements. Mais lorsqu'il y a des éruptions solaires, les vents de particules sont beaucoup plus denses, beaucoup plus rapides. Et à ce moment-là, on peut avoir un festival qui va durer toute la nuit.
Alors, vous faites des photos magnifiques de ces aurores boréales. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce phénomène ?
C'est assez difficile à décrire parce que ça peut une aurore de faible activité va se caractériser par une espèce de grande bande verte dans le ciel qui peut être très calme puis qui peut commencer à onduler, à bouger un petit peu, à remonter un petit peu, à faire des formes. Et ça, en fait, souvent les aurores boréales, on ne voit que des photos, mais c'est mouvant. Et lorsqu'il y a des aurores boréales extrêmement intenses, à ce moment-là, tout le ciel est occupé. On voit se développer à des vitesses vertigineuses des raies de lumière qui se déplacent, qui peuvent prendre des colorations à la limite du rouge, du violacé, du magenta, enfin des couleurs extraordinaires. Et on se retrouve à passer la nuit la tête en l'air, on a mal au cou le matin. Et c'est un spectacle, qui a cette magie. Que souvent, il commence par un ciel complètement noir. On va avoir cette débauche d'énergie pendant des heures. Et puis, brusquement, plus rien. Et si on n'a pas fait d'image, c'est comme s'il ne s'était rien passé.
Et cette énergie, justement, donc elle donne les belles aurores boréales. Mais elle a des conséquences hein, aussi sur la Terre. Exemple avec cet événement qui s'est produit au Québec le 13 mars 1989.
Ce matin, les Québécois se sont levés par une très belle journée d'hiver, mais depuis quelques heures, leur réseau d'électricité était en panne.
Il faudra des jours, des semaines même, pour déterminer la ou les causes exactes de la panne générale la nuit dernière. Des scientifiques avancent l'idée que les orages magnétiques provoqués par des éruptions solaires d'une puissance absolument exceptionnelle ne seraient pas étrangères à cette panne-ci, mais elles n'expliqueraient pas tout.
Il y a eu des perturbations atmosphériques, sauf qu'on ne peut pas mettre le doigt sur dire c'est ça la cause.
Mais est-ce qu'on soupçonne les orages magnétiques?
C'est une des causes probables.
Depuis quelques jours, le soleil est entré dans une colère lumineuse. On observe des éruptions sans précédent, avec des pluies solaires qui pourraient affecter le réseau.
Doute fort que ce soit la cause de la panne qu'on vient de connaître. Je ne m'explique pas qu'on dise des choses comme celle-là actuellement. Je pense que ça va peut-être prendre un astrologue comme président d'Hydro-Québec. On s'est rendu l'atmosphère qui nous cause des problèmes. On accuse le soleil, la lune, les étoiles. Il me semble qu'on est rendu trop loin.
Les premières variations importantes du champ magnétique terrestre ont été enregistrées vers 21h30 hier soir à Ottawa. Mais vers 2h48, la nuit dernière, les appareils ont enregistré le choc électrique le plus fort, à peu près à l'heure de la panne. En fait, depuis une semaine, le soleil est en pleine éruption. Il bombarde la Terre de flots d'énergie divers. Les éruptions de lundi, jeudi et vendredi, souvent plus fortes que 100 bombes à hydrogène, ont battu plusieurs records en termes d'émissions de rayons X.
Et Hydro-Québec a donc subi une panne qui a laissé des traces dans l'histoire. Jean Lilienstein, c'est le genre de conséquences que peuvent avoir les éruptions solaires sur la Terre.
Oui, et Hydro-Québec, cette panne de 89, elle a sonné un peu le début de cette discipline. Elle a quand même coûté 2 milliards de dollars au Canada. On n'en parle pas dans ce reportage, mais elle a aussi mis hors d'usage un transformateur électrique aux USA. Ça a coûté quand même 12 millions de dollars. Ça a abîmé des transformateurs en Grande-Bretagne et ça a affecté 1600 satellites. 1600 satellites. Donc évidemment, on étudie cet événement. Les Québécois, maintenant, savent bien ce qui s'est passé. Ils s'en protègent. Et nous, on estime que la probabilité d'un événement comme ça, c'est 1 tous les 150 ans. Alors, c'est quand même pas négligeable. Un, tous les 150 ans, mais c'est quoi ces événements? Eh bien, c'est une grosse bouffée de particules électrisées envoyées par le Soleil, ce que Olivier appelait tout à l'heure les éruptions, qui, par chance pour moi scientifique et malchance pour les industriels, heurtent la Terre, arrivent sur la trajectoire de la Terre. Et là, comme le décrivait Olivier extrêmement bien tout à l'heure, happée par le champ magnétique, elle va se déposer, d'abord faire un énorme anneau de courant autour de la Terre, dans lequel on évite de faire voler les satellites, et puis peu à peu remplir toute une coquille de l'espace autour de la Terre et se déposer au pôle Nord et au pôle Sud. Donc toutes ces zones sont pleines d'électricité, ça crée des champs électriques, et ces champs électriques très très grands, vous savez les champs électriques, on en a l'habitude, il y en a dans les orages par exemple, c'est pas quelque chose de très mystérieux, mais ces champs électriques se propagent jusque dans les sols, là où les sols sont conducteurs, et c'est le cas au Canada ou en Grande-Bretagne. Et là, ils créent du courant qui se propage dans le sol, qu'on appelle des courants induits. Et ces courants-là, donc quand même issus de particules qui viennent du Soleil, ces courants arrivent sur les centrales électriques, et ces centrales électriques, ça les fait chauffer ou ça fait fondre des composants, et on casse des transformateurs.
Alors quand on vous écoute, on se dit, c'est incroyable finalement qu'on ait si peu de connaissances, enfin nous, citoyens moyens, sur cet environnement-là, parce que ça peut avoir des conséquences sur notre quotidien. Vous me disiez, Olivier Grunewald, quand on a préparé cette émission, on a un peu frisé la catastrophe en décembre.
Alors, en décembre, pas vraiment. En décembre, il y a eu une très grosse éruption. Donc, il y a des niveaux de classement d'éruption. Donc, C, M, X. Et X, c'est exponentiel, puisqu'on ne sait pas où ça peut s'arrêter. On était dans une éruption assez forte. Et on arrive à avoir une idée du moment où peuvent se produire ces éruptions, parce qu'elles sont générées, très souvent, par des taches solaires. En fait, le Soleil tourne sur lui-même, emportant avec lui les taches solaires qui sont à sa surface. Et ces taches solaires, si elles sont tournées de l'autre côté du Soleil, peuvent faire des éruptions titanesques. On aura éventuellement des conséquences par des blackouts radio qui mettent 8 minutes à arriver. Mais les conséquences peuvent être faibles. Mais si ce groupe de taches solaires continue à être très actif et à se tourner vers la Terre, on peut arriver à voir arriver quasiment la masse de particules, et à tel point que si la masse de particules arrive vraiment, on est dans une bonne ou mauvaise position, ça dépend de quel point de vue on se place, mais pour les aurores boréales, ça peut générer, en cas de grosse éruption, des aurores boréales qui descendent très très bas en latitude. On pense toujours que les aurores boréales ne sont visibles que dans le Grand Nord. Il y en a qui ont été vues en France, dans le sud de l'Italie, en Égypte. Et pendant l'événement majeur, qui est un peu la référence, l'événement de Carrington en 1859, des aurores boréales permettaient aux gens de lire la nuit dans le canal de Panama. Donc ces aurores boréales, elles sont un peu la signature de la force de l'événement. Il faut savoir que globalement, des aurores boréales sont vues dans le nord de l'Angleterre, le milieu de l'Angleterre, en Hollande, assez régulièrement.
Mais alors, je le disais au début de l'émission, on est dépendant vraiment aujourd'hui de toutes ces connexions. Est-ce qu'on risque d'avoir un blackout, comme je disais tout à l'heure?
Mais pour les amateurs pour les radio-amateurs qui suivent ça, les blackouts radio sont très courants. Mais après, ça peut être des blackouts radio qui durent quelques minutes. Mais après, il peut y avoir des conséquences bien plus importantes. Si des satellites sont affectés, il faut imaginer que l'afflux de particules va écraser la magnétosphère, déplacer ou ralentir les satellites, déplacer les débris ou déchets spatiaux, et un satellite qui n'est plus en bonne position, qui a été obligé de se mettre en veille pour éviter d'être affecté par l'intensité du vent de particules, ben ça veut dire des moments où il n'y a plus d'émissions de radio.
Et par exemple, plus de GPS ou plus d'informations qui circulent, et par exemple, vous ne pourrez plus écouter RFI et donc cette émission. Jacques Bonnemain, justement, vous connaissiez ces phénomènes d'échange d'électricité entre le Soleil et la Terre?
On les avait effectivement à la marge, parce que nous ne sommes pas spécialistes identifiés comme des risques extra-terrestres pour la gestion des satellites, et donc un risque supplémentaires à ceux des déchets qu'on trouve maintenant malheureusement couramment dans l'espace, parce qu'on est des spécialistes de la mer, Et puis, on a regardé vers le ciel et on s'est aperçu que dans le ciel, il y avait aussi énormément de déchets. Et on préfère finalement ce terme de déchets à celui de débris qui est utilisé par les spécialistes, parce que le mot déchet implique une nécessité de retrouver le responsable de l'abandon du déchet. Et donc, notre volonté est de responsabiliser l'industrie spatiale et de demander à chaque État lanceur de satellites, par exemple, de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de déchets dans l'espace.
Alors, on va revenir sur les solutions, ce sera plutôt dans la deuxième partie de l'émission, mais aujourd'hui, quels sont les déchets que l'on trouve dans l'espace et en quelle quantité ?
Entre 160 km de hauteur et 35 000 km de hauteur, c'est-à-dire de l'orbite basse aux orbites hautes à l'orbite géostationnaire, on trouve des millions de déchets. Des résidus de combustion, des scories, qui sont à la fois des projectiles, parce qu'ils circulent dans l'espace à une vitesse considérable. Et non seulement donc c'est des déchets abandonnés par l'homme dans l'espace, mais c'est aussi un danger pour le bon fonctionnement des satellites. Et puis il y a les SHU, les satellites hors d'usage, comme les VHU sur Terre, qui sont envoyés dans des espèces de fourrières, dans des orbites cimetières, et qui, un jour ou l'autre, dans 3 siècles, 4 siècles, 5 siècles, 6 siècles, nous retomberons sur la figure.
C'est déjà arrivé?
Bien sûr. Il y a exactement 32 ans, le 24 janvier 1978, donc vraiment, c'était hier, un satellite radioactif, qui plus est, alimenté par un réacteur nucléaire à l'uranium 235, est tombé sur l'Arctique canadien, sur les territoires du Nord-Ouest canadien. Et il est tombé dans le silence absolu, c'est-à-dire que la Russie, les États-Unis, la France savaient qu'un satellite allait tomber, mais ne voulait pas le dire à la population pour éviter la panique et pour éviter le discrédit pour l'énergie nucléaire, parce qu'en 78, on était en plein essor.
Il n'y a pas eu de dégâts nucléaire.
Il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu évidemment toute une opération de récupération maximale des débris radioactifs, mais à vrai dire, très peu ont été retrouvés, et on pense, nous, chez Robin des Bois, qu'il y a une contamination de la chaîne alimentaire suite à cet accident.
Jean Lilienstein, vous suivez, vous aussi, en tant que scientifique, ces problématiques de débris?
Ah oui, c'est quelque chose de très important. La raison, c'est que quand il y a une forte éruption solaire, la haute atmosphère, là où volent ces débris spatiaux, qui sont, il y a 6% c'est des satellites, 22% c'est des satellites en fin d'opération, comme l'a dit Jackie, il y a 17% qui sont des étages supérieurs de fusée, le reste c'est vraiment des fragments. Et au total, il y a plus de 2 millions de kilogrammes de déchets. Une éruption solaire entraîne le réchauffement et la dilatation de la haute atmosphère, là où volent tous ces débris spatiaux, et du coup, ça emporte, avec la dilatation, ça emporte ces débris spatiaux. Alors, on a deux agences qui suivent les débris, une à Darmstadt en Allemagne pour le compte de l'Agence spatiale européenne, et puis une aux États-Unis pour la NASA. Mais quand il y a une éruption solaire, on les perd. Et ces agences sont capables de suivre les débris d'une taille typique supérieure au centimètre ou à la dizaine de centimètres, ou au-dessus bien sûr, mais pas celle du dessous. Et ensuite, les opérateurs ils passent des heures à essayer de retrouver tous ces débris pour éviter qu'il y ait des impacts sur des satellites ou sur la Station spatiale internationale ou des fusées. Et quand on craint qu'il y ait un impact, on est obligé de désorbiter les satellites ou la Station spatiale, ce qui est périlleux et très cher.
Qu'est-ce que ça veut dire désorbiter un satellite ?
Ça veut dire qu'on allume un petit moteur pour le faire voler un tout petit peu plus haut.
D'accord. Donc on comprend bien en tout cas que les enjeux sont colossaux. Alors après, il existe des solutions, vous l'avez dit, il y a des agences qui sont en veille. Et vous, c'est votre travail, pas de veiller sur les débris, mais d'anticiper en tout cas ces éruptions solaires. On en parle plus en détail juste après le flash d'information. À tout de suite.